VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 27 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord les titres. Au Soudan, en plein chaos, des suspects de crimes contre l'humanité en fuite. Au Nigeria, 5 militaires tués dans l'explosion d'une mine sur une route du nord-est en proie à une insurrection djihadiste. En Ouganda, le président Yoweri Museveni demande un réexamen d'une loi anti-LGBT+, controversée. Ici à Washington, le président Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol mettent en garde Pyongyang contre toute attaque nucléaire. Et puis, M. Biden va se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour une visite historique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Soudan, un ancien responsable de la dictature, Ahmed Haroun, soupçonné de crimes contre l'humanité, s'est évadé de prison en compagnie d'ex-collaborateurs à Khartoum, où de nouveaux combats entre l'armée et les paramilitaires mettent en péril le fragile cessez-le-feu Clermont-Ringibourg.
Profitant d'une situation chaotique, Ahmed Haroun, personnage important du régime de Béchir, a annoncé mardi s'être évadé de la prison de Kober à Khartoum avec d'autres anciens responsables de l'ancien régime. Omar El-Béchir, qui était lui aussi détenu dans la prison de Kober, a été, selon l'armée, transféré avant le début des combats dans un hôpital où il se trouve sous la garde de la police judiciaire. Les affrontements ont continué hier dans la capitale où des avions de chasse de l'armée ont survolé la banlieue nord, essuyant les tirs à l'artillerie lourde des paramilitaires. La périphérie de Khartoum a également été la cible d'intenses frappes aériennes et des affrontements à la mitrailleuse ont eu lieu dans la périphérie sud où se trouve une maison du dirigeant des paramilitaires, selon des témoins. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis, les combats meurtriers opposent depuis le 15 avril les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo à l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan.
La grave sécheresse qui frappe la Corne de l'Afrique est la conjonction inédite d'un manque de pluie et de fortes températures qui n'auraient pas pu se produire sans les émissions humaines de gaz à effet de serre, conclut une étude scientifique publiée ce jeudi. Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu la sécheresse agricole dans la Corne de l'Afrique environ 100 fois plus probable, indique dans un rapport le World Weather Attribution, réseau mondial de scientifiques qui évalue sans délai le lien entre les événements météorologiques extrêmes et le dérèglement climatique. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a demandé aux parlementaires de réexaminer une loi anti-LGBT plus controversée. Dans une lettre lue mercredi au Parlement, les enjoignant notamment de maintenir la criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe, mais pas du fait d'être homosexuel. Ce texte voté le 21 mars, qui prévoit de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles, a suscité une vive indignation d'organisations de défense des droits humains et des gouvernements occidentaux qui ont menacé de prendre des sanctions. Au Nigeria, 5 soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord-est du pays. La région est en proie à une insurrection djihadiste avec une récurrence d'attaques et d'enlèvements. Alexandrine Holognon.
L'unité militaire était en patrouille dans le village de Laï, non loin de la frontière avec le Niger, lorsque leur véhicule a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. L'attaque a fait 5 morts et d'après le responsable d'une milice d'autodéfense, elle a été menée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. La nuit précédente, des djihadistes avaient attaqué le même village, Laï, enlevant 4 habitants, dont un chef local. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'armée. Une insurrection djihadiste sévit depuis 14 ans dans le nord-est du Nigeria, où Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest contrôlent et multiplient les attaques. Le mois dernier, 3 militaires ont été tués dans l'explosion d'un camion militaire près de la ville de Banki, à proximité de la frontière avec le Cameroun.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un jeune Congolais footballeur a été abattu samedi dernier à Florence, dans l'État de Kentucky. Le point avec Eddie Isango.
La police de Florence déclare avoir trouvé les corps de Dan Likiko, 21 ans, sans vie, criblé de balles sur le siège de conducteur de sa voiture à Winthrop Circle. Des policiers sont arrivés sur le lieu, appelés pour une altercation. Un homme blanc de 38 ans s'est rendu, acceptant d'avoir abattu Dan Likiko. L'examen de l'arme qu'il détenait l'atteste. L'homme est en détention, mais une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est passé. Les proches et membres des familles doutent de la version de la police, affirmant qu'il était un jeune homme respectueux, rêvant de réaliser un avenir meilleur. En avril 2022, un an plus tôt, un autre jeune Congolais a été abattu par la police de Michigan après un incident de conduite de voiture.
Le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol ont mis en garde hier la Corée du Nord contre toute attaque nucléaire. Une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés ou partenaires est inacceptable et provoquera la fin du régime qui déciderait d'entreprendre une telle action, a averti M. Biden. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Messieurs Biden et Yoon Suk-yeol ont mis en exergue le renforcement du bouclier nucléaire américain et leur alliance indéfectible forgée en temps de guerre et qui a prospéré en temps de paix, selon le président américain. Monsieur Yoon a pour sa part estimé que la paix avec son voisin du Nord reposait sur une force supérieure écrasante plutôt qu'une bonne volonté de l'autre partie. Par ailleurs, M. Biden va devenir le premier président américain en exercice depuis au moins un siècle à se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour un voyage bref mais symbolique, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères de l'archipel d'Océanie, Justin Katchenko. Cette visite présidentielle est un signe de l'importance stratégique croissante de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une région où la Chine s'affirme de plus en plus. M. Biden prévoit de faire escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mai, en marge de ses voyages au sommet du G7 au Japon et d'une visite à Sydney avec l'alliance informelle appelée Quad qu'il forme avec le Japon, l'Australie et l'Inde, a précisé le ministre des Affaires étrangères. États-Unis toujours, leur divorce est consommé. Disney a porté plainte hier contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. L'entreprise se plaint des mesures prises par le gouverneur et qui ont mis fin à son statut spécial en Floride. Rosine Monezero.
Dans sa plainte, Walt Disney Parks and Resort accuse M. DeSantis d'avoir orchestré une véritable campagne pour mener une vengeance gouvernementale ciblée pour le punir d'avoir exercé sa liberté d'expression, ce qui, selon l'entreprise, menace désormais ses activités commerciales et met en péril son avenir économique. Le groupe s'était attiré les foudres du gouverneur l'an dernier en dénonçant un projet de loi qui restreignait l'enseignement des sujets liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles primaires de Floride. Depuis, M. DeSantis a supprimé en février le statut spécial de Disney dans son État, mettant fin aux avantages, facilités administratives, autogestion du site, emprunts avantageux et bien d'autres, dont le parc d'attractions Disney World bénéficiait depuis les années 1960. Disney, qui est le plus gros employeur de Floride, dénonce une mesure de rétorsion manifestement anti-commerce et inconstitutionnelle. Le groupe estime qu'il n'a pas d'autre choix que d'intenter une action en justice pour protéger ses employés, ses clients et ses partenaires.
Ici à Washington, les républicains à la Chambre des représentants ont adopté hier un texte conditionnant une hausse du plafond de la dette américaine à une coupe budgétaire. Le texte adopté sur le fil n'a toutefois aucune chance d'être approuvé au Sénat, où les démocrates sont majoritaires. Le président Biden a affirmé qu'une hausse du plafond était non négociable et rejette vivement le projet républicain qui détricoterait certaines de ses ambitions climatiques. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de croissance du PIB projeté à 7,2% pour cette année contre 6,7% en 2022, a indiqué mardi le président ivoirien Alassane Ouattara. Dans un discours sur l'état de la nation, il a également prédit que l'inflation devrait baisser à 3,7% contre 5,3% l'an passé. Le président mozambicain Philippe Nyusi a assuré mercredi que les conditions sont réunies pour permettre à Total Energy de reprendre son projet d'exploitation de gaz naturel dans le pays. Fin mars 2021, une attaque sur la ville de Palma a forcé le groupe français à suspendre un projet d'exploitation de gaz naturel pesant 16,5 milliards d'euros. Les installations encore en construction sur la péninsule d'Afungi ont été évacuées. Le Cameroun va mettre en place un guichet de transition agroécologique dans la filière cacao avec le concours de l'Union européenne. Ce guichet vise à diminuer l'usage des pesticides et privilégiera les modes de production qui préservent les sols et la végétation. Selon le ministre camerounais de l'Agriculture, Gabriel Mbaïrobé, il ne s'agit nullement d'une course à la productivité, mais de valoriser les acquis de la recherche agricole pour une intensification intégrant la notion de ceinture verte phytosanitaire.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des matchs de la conférence NIL de la Basketball Africa League saison 3.
Oui, deux matchs au programme ce jeudi. Les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club font face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers et les Angolais de Petro de Luanda affrontent les Ougandais de City Oilers. Hier, en match inaugural de cette conférence NIL, le club hôte Al-Ahly du Caire et les Mozambicains de Ferroviário da Beira ont donné le ton. Victoire des hôtes égyptiens 92 à 74. Les rencontres de cette conférence se poursuivront jusqu'au 6 mai. Six clubs sont en lice pour quatre places qualificatives pour les playoffs prévus du 21 au 27 mai à Kigali au Rwanda. Il s'agit d'Al-Ahly Sporting Club d'Égypte, formation hôte, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, City Oilers de l'Ouganda, Petro de Luanda, Ferroviário da Beira du Mozambique et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Pour rappel, les quatre qualifiés de la conférence Sahara pour les playoffs sont le Stade malien de Bamako, l'AS Douane du Sénégal, Rwanda Energy Group et Abidjan Basketball Club.
Balle toujours focus sur une formation qui prend part à cette saison 3 de la Basketball Africa League.
Je le disais, les Ougandais de City Oilers entrent en compétition ce soir face aux Angolais de Petro de Luanda. Nous vous emmenons au cœur de la bataille des Ougandais pour la qualification à cette édition 2023. Immersion.
C'est la troisième fois que l'on essaie de se qualifier pour la balle. Évidemment, nous avons échoué les deux premières saisons et on y pense tous les jours. Personnellement, ça me hante. C'était dur de ne pas participer aux deux dernières saisons de la balle. Cette fois-ci, je sens bien l'énergie de l'équipe. Ils ont travaillé si dur pour y arriver. La balle change beaucoup de choses. Cela donne de l'exposition. Il y a tellement de talent ici en Afrique et les gars le méritent vraiment. Ta vie peut changer, tu sais. Si tu es performant, tu as des opportunités. La balle apporte tellement, le niveau de compétition a augmenté dans mon pays. Maintenant, le monde entier regarde l'Afrique. Plus de talents se révèlent. C'est génial. Je pense que nous sommes les outsiders. C'est ce qui nous rend affamés. Nous sommes excités et heureux de faire partie des 12 meilleures équipes. Pour les City Oilers, faire partie de la balle élève le niveau de basketball dans notre pays. Toutes les équipes au pays nous regardent, car quand tu es au top de ta ligue, alors tu peux prétendre participer à la balle.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au milieu d'un fragile cessez-le-feu au Soudan négocié sous l'égide des États-Unis, la fuite de prison d'un ancien responsable soudanais recherché pour crime contre l'humanité en compagnie d'autres ex-collaborateurs suscite des craintes d'instabilité accrue dans le pays. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint hier à Khartoum le journaliste Salah Mohamed El Hassan Osman, qui commence par l'application de la trêve de 72 heures.
Généralement, c'est calme. Il n'y a pas de reprise de guerre, comme on peut le dire proprement. C'est calme, à part quelques coups d'artillerie qui viennent de temps à autre des deux côtés de la ville, qui est au nord de Khartoum.
Est-ce que les habitants de Khartoum peuvent circuler librement?
À pied, oui. Moi, personnellement, je suis sorti de chez moi. J'ai fait une tour à un lieu à peu près à 2-3 km de chez moi. Je suis rentré dans un marché local et la vie d'apparence est normale.
Et la trêve va tenir jusqu'à quand?
Les gens n'attendent pas. N'attend pas que ce soit respecté parce qu'on parle de mobilisation des forces aériennes de l'armée soudanaise dans une base militaire à Omdurman. On parle de mobilisation des forces terrestres dans quelque part à l'est et au sud de la ville de Khartoum. Alors, c'est la deuxième journée de cette trêve au cessez-le-feu. On espère qu'il continue. La plupart des gens ne sont pas optimistes. Parce qu'il y a des déplacements massifs qui continuent. Il y a des centaines de gens qui quittent le ville vers Al Jazeera et vers le Nil Blanc, deux régions voisines de Khartoum.
Il y a des informations qui disent que l'ancien président Béchir serait sorti de la prison. Quelle est la vraie version?
Non, c'est pas vrai. En fait, ce sont les partisans de Béchir qui étaient dans la prison de Kober qui sont sortis de prison. Mais Béchir lui-même, il était hospitalisé dans un hôpital militaire qui s'appelle Alia, dans le corps militaire de l'armée soudanaise. Alors, il n'est pas sorti de prison. Mais ses assistants, surtout Ahmed Haroun, qui est demandé par la Cour pénale internationale, est sorti. Il a diffusé un vidéo où il remercie l'armée soudanaise pour cette libération. Mais ce n'était pas une libération. C'était à cause de pionnerie de nourriture, d'électricité, parce que les autorités des prisons n'ont pas pu assurer la sécurité des prisonniers. Ils ont ouvert la porte et leur demandé de se sauver.
Est-ce que l'armée a fait une mise au point, a communiqué là-dessus?
L'armée, oui, a publié un communiqué de presse en disant qu'il n'a pas de lien, de rapport avec cette libération et que les prisons ne sont pas de l'autorité de l'armée soudanaise, mais de l'autorité du ministère de l'Intérieur.
C'était Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste soudanais, joint hier à Khartoum. Au Tchad, libération d'otages qui avaient été enlevés dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, les nouvelles autorités administratives disent avoir déployé les gros moyens, mais certains parents soutiennent avoir versé des rançons pour obtenir la libération de leurs proches. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Il a fallu que tous les responsables militaires de la province du Mayo-Kébi-Ouest soient relevés de leurs fonctions et qu'un avion de chasse survole la position des ravisseurs présumés pour que ces ex-otages puissent recouvrer la liberté. D'autres, en revanche, ont été libérés après le versement des sommes allant de 1 à 2 millions et demi de francs CFA. Selon cette victime, les otages ont été soumis à un traitement inhumé et dégradant.
J'étais dans la matinée pour aller acheter les blés à Ndibou. On a trouvé 9 personnes. Une mamie, la corde au cou, là. Et on est parti dans la forêt. Ils ont pris 415 000 avec moi. Et ils ont donné le numéro. On est arrivé là-bas, ils ont dit qu'ils avaient 30 millions avec moi. Mais j'étais, je n'ai rien. On m'a tapé et m'a maltraité. On a fait 26 jours. dans la bouche.
Si la première victime a été kidnappée en rentrant d'un marché hebdomadaire, une jeune fille, élève en classe de première, et son frère ont été enlevés chez eux en lieu et place de leur père absent de la maison quand les ravisseurs présumés ont visité la famille nuitamment. Elle raconte aussi sa mésaventure.
Ceux qui sont venus à la maison, là, ils sont au nombre de trois. Et deux personnes sont restées au champ. Cinq personnes et trois armes avec eux. Ils nous ont beaucoup maltraités. Ils nous ont tapé beaucoup. Ils ont dit que si papa ne ramène pas l'argent, là, ils ne vont pas gâter leurs cartouches là, pour me tuer avec. Ils vont me gorger avec le couteau. Premièrement, ils ont demandé 25 millions. Papa dit qu'il a 1 million. Il a dit à papa, 1 million, là, c'est qu'il n'a pas besoin de sa fille. Il dit absolument, il veut 4 millions. Papa dit qu'il a 2 millions. Il dit 2 millions, là, il reste avec son argent. Ils ont pris 2 millions, 250 000 avec le papa.
La déléguée de l'action sociale de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Mme Céline Passalé-Tiendibé, a dit à VOA Afrique que son institution a pris en charge psychologiquement les deux femmes après leur libération.
C'est vrai, à l'année, on fait beaucoup d'enlèvements par rapport à d'autres sous-préfectures. Et pendant la CNAFE, nous avons ensemble, toutes les femmes, décidé de faire une recommandation spéciale par rapport à l'enlèvement des personnes contre rançon et surtout les femmes. Je voudrais vous dire que le ministère du Genre et de la Solidarité Nationale ne dort pas. Depuis que nos deux femmes sont enlevées, il y a eu beaucoup de mouvements. C'est dû au cri du ministère du Genre et de la Solidarité. Et Dieu aussi a été également au contrôle.
Le nouveau gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Tiken Ibede Iberde, met en garde les preneurs d'otages et leurs présumés complices.
D'après mes analyses totales, les gens ne sont pas loin, c'est les enfants même de la province. Ceux qui enlèvent les gens, c'est les enfants de la province. Ceux qui font la médiation pour chercher de l'argent, c'est les forces de sécurité de la province. Ils collaborent pour faire du mal à la population. Chef de canton, sous-préfet, préfet, chef de village, commandant de brigade, commandant de compagnie, commandant d'escadron, comme groupement, comme légion, comme zone, il faut qu'ils changent. Qu'ils changent pour la paix de la population du Mayo-Kébi-Ouest.
Pour l'instant, plusieurs personnes, dont un enfant de 11 ans, seraient toujours détenues par les ravisseurs présumés dans le département de Nanaï. André Kodouma Djingar Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Togo, le paludisme demeure la première cause de consultation dans les centres de santé. Les différentes stratégies de lutte contre la maladie connaissent des limites du fait de la passivité des populations. Le Global Protect Initiative, un mouvement d'engagement communautaire, veut aider à un changement de comportement pour venir à bout de la maladie. De Lomé Kosiwusu.
À l'ombre d'un arbre au centre de santé de Kakaveli, dans la capitale togolaise, Awanda, jeune dame d'une vingtaine d'années, se repose après son traitement du jour contre le paludisme. Elle revient de loin après une crise aiguë de la maladie.
J'avais des frissons. Trois jours après, j'ai fait une crise. J'étais hospitalisée. Actuellement, je suis toujours dans la convalescence. Ce matin même, je suis allée faire les dernières injections. Demain, je termine.
En plus des coûts inhérents au traitement du paludisme, la jeune dame va perdre au moins 2 semaines de travail. C'est un manque à gagner qui a des incidences sur les ménages pauvres, dit Nimon Boris, un entrepreneur qui souffre régulièrement du paludisme.
Pour nous, les populations qui vivent en Afrique, où chacun se débrouille et où les gens gagnent leur pain le jour, le fait de faire une semaine ou plusieurs jours à la maison, ça fait que tu es en train de dépenser pour te soigner, mais tes revenus ne viennent pas.
Au Togo, selon le Programme national de lutte contre le paludisme, la maladie continue d'être la première cause de morbidité et de mortalité au sein de la population. Le gouvernement s'est donc lancé sur la voie de l'élimination du paludisme dans le cadre de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030. Docteur Eliassou Afolabi, chargé de prise en charge au Programme national de lutte contre le paludisme.
Plusieurs interventions sont menées en faveur des populations à travers la mise en œuvre de plans stratégiques nationaux, la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 6 mois sont entre autres les interventions phares de la lutte contre le paludisme dans notre pays.
Malgré toutes ces actions, la maladie persiste et atteint des proportions inimaginables selon l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Kokou Agudavi, coordonnateur du programme Global Protect Initiative, GPI Afrique, veut apporter des innovations dans la lutte contre le paludisme.
L'innovation que GPI apporte ici, c'est l'utilisation et la promotion de la pose de grilles anti-moustiques aux fenêtres et aux portes de nos maisons. Autre innovation, c'est l'identification et la gestion efficace des gîtes larvaires. La troisième innovation, c'est l'utilisation du répulsif, les herbes, les plantes que nos grands-parents utilisaient dans le temps pour chasser les moustiques dans leur environnement immédiat.
Pour une réussite effective de cette initiative, Dr Rapi Kokua Goudavi veut bien compter sur l'engagement individuel et communautaire et un changement de comportement vis-à-vis de la perception de la maladie devenue une fatalité chez les Togolais. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Sénégal, ils sont de jeunes entrepreneurs en plein essor. Leur particularité, ils ont préféré ne pas émigrer en Occident, en Orient ou en Amérique, mais plutôt prendre ce qu'il y a de meilleur dans leur pays pour les fructifier localement. Un choix fort pour créer des opportunités et lancer des marques de vente et ouvrir des boutiques de référence. Reportage de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
J'ai toujours voulu partir à l'extérieur, mais pour ne pas émigrer. Acheter des marchandises, revenir au pays, travailler pour mon pays, parce que je pense que c'est beaucoup plus important.
J'ai toujours cru en moi et j'ai toujours cru que je peux créer mon propre business dans mon pays et voyager, acheter des bagages et revenir.
Pour beaucoup de jeunes, aller en Occident rime avec l'immigration, souvent clandestine, pour avoir des opportunités de travail. Mais depuis quelques années, une nouvelle tendance voit le jour avec des jeunes qui préfèrent faire la navette entre les pays dits développés et le Sénégal pour créer leur propre business. Entreprendre dans ces conditions, un pari souvent difficile voire risqué, dans une société avec beaucoup de stéréotypes. Cela n'a pas empêché Aram Lai Meng de se lancer dans la création de sa marque Sunshine.
J'ai toujours voulu entreprendre, mais tu sais, avec nos parents sénégalais, ils pensent qu'il faut tout le temps faire les bancs, aller au bureau pour qu'on puisse dire que mon enfant est quelque chose.
Idem pour Mohamedou Murtada Gueye, qui lance la marque MJ Perfume.
Je suis issu d'une famille de commerçants, donc à l'âge de 17 ans, je travaillais chez mon père. J'étais comptable là-bas et quand j'ai travaillé 2 ans là-bas, au final, je me suis dit pourquoi pas ouvrir mon propre business. C'est après que je me suis lancé dans la parfumerie.
Jeune et sans expérience solide dans le milieu du commerce, il se lance quand même dans le grand bain des affaires. Les débuts sont difficiles, mais leur persévérance finira par avoir raison de nombreux obstacles. Aram Lai Meng, fondatrice de la marque Sunshine by Rames, opte pour la vente de tissus.
Bon, tout d'abord, j'ai débuté avec 100 000 francs. Et les 100 000 francs, c'était une sœur qui m'avait offert ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du business, comme c'est une chose que j'ai toujours voulu. Et aussi, ma mère, elle était commerçante. C'est une référence pour moi. Donc, avec cet argent, j'ai acheté de bouche à oreille mes amis, mes sœurs, mes frères et tout. Ils m'ont supporté. Ils ont acheté mes marchandises. J'échelonne. De jour en jour, les chiffres d'affaires augmentent. Et ben, je suis arrivé là.
Mohamedou Murtada Gueye, fondateur de la marque MJ Perfume, s'oriente vers la vente de parfums.
J'ai commencé à bas prix et maintenant, mashallah, je voyage partout dans le monde pour acheter des modèles de parfums qui sont vraiment rares et je me suis vraiment implanté sur le marché sénégalais par rapport à mes prix, par rapport à la qualité des parfums que je vends.
Des produits de qualité venant des quatre coins du monde et vendus à des prix accessibles pour toutes les bourses, telle est la méthode utilisée par Aram Lai Meng et Mohamedou Murtada Gueye pour s'affirmer dans l'espace commercial sénégalais, l'une dans la vente de tissus et l'autre dans la vente de parfums. Deux domaines différents, mais une même stratégie et une même volonté d'arriver à mettre en place des unités de production locale. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.